RCF.
Le grand invité, Bénédicte Bossard.
Et c'est avec vous que l'on voyage ce soir. Bonsoir Michael Langlois.
Bonsoir Bénédicte.
Vous êtes historien et bibliste auprès de l'Université de Strasbourg. On peut également vous présenter comme l'un des grands spécialistes des manuscrits de la Mer Morte. Ce soir, vous nous emmenez donc en Cisjordanie, au cœur du site archéologique de Qumran. Non bien connu, hein, puisque ce sont dans cet ensemble de grottes que l'on a découvert les fameux manuscrits de la Mer Morte. C'était au milieu du XXe siècle. Parmi les documents découverts, des textes en hébreu qui font d'eux les plus anciens textes bibliques. Une étude scientifique vient de sortir et elle appuie l'hypothèse selon laquelle ces manuscrits auraient été déplacés avant d'être disséminés dans ces grottes. On va en parler dans quelques instants de cette découverte et des enjeux qu'elle soulève. Simplement, avant Michael, revenons sur ces manuscrits. À quoi correspondent-ils? C'est en fait un ensemble, parfois sous forme de fragments, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. En fait, ce sont des manuscrits qui sont arrivés pour la plupart sur le marché des antiquités au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et très vite, ils ont fait sensation parce qu'ils contiennent notamment des livres de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament des chrétiens. Ce sont même les plus anciens manuscrits. Ils sont 1000 ans plus anciens que les plus anciennes Bibles hébraïques qu'on connaissait à l'époque. Et donc, ça a été une véritable révolution pour l'étude de la Bible.
Il y a à peu près combien de manuscrits qui ont été découverts ?
Alors au total, on a recensé environ 1 millier de manuscrits. Le recensement n'est pas facile à faire parce qu'en fait, ce sont surtout des dizaines de milliers de fragments, parfois des miettes vraiment, qui ont été retrouvés soit par des bédouins, soit par les archéologues, notamment le père Roland Deveau qui dirigeait les fouilles. Et donc, il a fallu reconstituer ces centaines de puzzles et à vrai dire, la tâche n'est toujours pas finie.
Et j'imagine du coup qu'avec un chiffre pareil, ce sont à chaque fois des scripts différents, des écritures différentes qu'on a découvert.
Alors oui, c'est ça, bien sûr. Il y a des dizaines de scribes différents. On reconnaît les écritures différentes. Chacun a sa propre écriture. Et puis, ils ont copié ces manuscrits à des époques différentes, sur des supports différents. La plupart, c'est du parchemin, mais certains sont sur papyrus. Et en plus de ça, dans des grottes, enfin, ils ont été retrouvés dans des grottes différentes ou même sur des sites archéologiques tout au long de la Mer Morte, au nord, bien sûr, on parlait de Qumran à l'instant, mais également jusqu'au sud, à Masada. Et donc, c'est tout un ensemble, c'est ça qu'on appelle les manuscrits de la Mer Morte.
Michael, ça signifie que jusque-là, les textes bibliques dont on disposait, c'était des textes qui étaient beaucoup plus récents, basés sur des manuscrits du Moyen-Âge. C'est donc une découverte absolument exceptionnelle. Je le rappelle, elle date de la moitié du XXe siècle. Et pourtant, cette découverte, elle est restée longtemps inconnue du grand public. Pour quelles raisons ?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'était quand même très très compliqué d'étudier ces manuscrits. Il y a eu, c'était le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est tout un imbroglio politique avec la création de l'État d'Israël, l'annexion de la Cisjordanie par la Transjordanie, etc. Enfin bref, ça a été très très compliqué pour les spécialistes de travailler sur ces manuscrits, de communiquer entre eux. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas s'envoyer des emails. Et puis après ça, il y avait donc ces dizaines de milliers de fragments qu'il fallait rassembler. C'est comme si vous prenez des puzzles, vous les mélanger entre eux, et en plus vous enlevez le modèle, imaginez l'ampleur de la tâche. Donc ça a pris plusieurs dizaines d'années pour arriver à rassembler ces petites pièces et les publier. Alors il y a eu des tentatives d'en parler au grand public, il y a quand même eu quelques, en France, par exemple Dupont-Sommer, André Dupont-Sommer qui était professeur au Collège de France, on a très vite parlé, il faisait même ses leçons au Collège de France dessus, mais disons que ça s'adressait surtout à un public quand même de gens un peu intéressés, on va dire. Il faut dire qu'il a fallu attendre très très longtemps avant que ça arrive jusqu'au grand public, et même d'une certaine manière aujourd'hui encore, les traductions de la Bible en français, celles qu'on va lire chez soi ou à l'église, ne tiennent pas toujours compte de ces anciens manuscrits.
Parlons à présent de cette nouvelle découverte scientifique qui vient appuyer le fait que ces manuscrits auraient été déplacés, qui ne seraient donc pas originaires de la région dans laquelle ils ont été trouvés. En quoi cette question-là, c'est un véritable enjeu d'identifier la provenance de ces manuscrits ?
Oui, alors c'est très très intéressant. Ces tests ADN, ça faisait un certain temps qu'on y pensait. Il y a eu quelques tests préliminaires, mais les techniques de tests ADN ont beaucoup évolué ces dernières années. C'est beaucoup moins cher surtout. Et la grande surprise de cette étude, c'était de se rendre compte que là où on pensait que c'était de la peau de chèvre qui avait servi de support d'écriture pour faire le parchemin, en fait, en général, c'est de la peau de mouton. Or, les moutons ne vivent pas au bord de la mer Morte, dans ces zones désertiques. Et donc, une des conclusions un peu inattendues de cette étude, c'est de dire, mais alors finalement, si c'est de la peau de mouton, ces peaux ne viennent pas de Qumran, ne viennent pas de la mer Morte. Et donc, peut-être que les manuscrits eux-mêmes viendraient d'une autre région. Ce qui pose la question de savoir, mais finalement, qui les a écrits?
Parce que jusque-là, ces manuscrits, on les associe à l'histoire des Esséniens. Qui sont-ils?
Oui, c'est ça. Alors en fait, le site de Qumran, les ruines de Qumran, étaient, le pensait-on, occupées par une communauté de type essénien. Alors, pour faire simple, à l'époque, au 1er siècle de notre ère, donc à l'époque de Jésus, si vous voulez, il y a trois grandes branches, trois grands mouvements dans le judaïsme à l'époque. C'est pas moi qui le dis, c'est un historien qui a vécu lui-même au 1er siècle de notre ère, qui était juif lui-même, et il dit, voilà, il y a les sadducéens, les pharisiens et les esséniens. Et il dit, je connais bien ces trois grandes branches, il dit, les Esséniens, je les ai fréquentés moi-même, j'ai vécu avec eux, etc. Et donc, quand il parle des Esséniens, alors il nous raconte différentes choses sur eux, mais à un moment donné, il dit que certains des Esséniens vivent dans des communautés un petit peu à l'écart, elles attendent la venue du Messie, la fin du monde, la fin des temps est proche. Certains vivent en célibataire, dans des communautés un peu monastiques. Or, tout ça correspondait, disons, aux caractéristiques à la fois du site archéologique de Qumran lui-même et du contenu de certains de ces manuscrits de la mer Morte. Donc, très tôt, dès les premières années, dès la fin des années 40, à la fois en Israël, donc Eleazar Soukhenik, et en France, André Dupont-Somer, avaient émis l'hypothèse selon laquelle ces manuscrits venaient des Esséniens, qu'ils avaient été copiés par des Esséniens, ceux-là même qui habitaient à Qumran.
On parle de secte quand on parle des Esséniens. Est-ce que c'est le mot qui convient si on se remet dans le contexte de l'époque?
Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot secte. C'est vrai que le terme secte, traditionnellement, correspond à un groupe religieux ou philosophique. Ça n'a pas une connotation négative. Donc, effectivement, dans certaines traductions françaises de ce fameux historien Flavius Joseph, dont je parlais tout à l'heure, il dit il y a trois grandes sectes, sadducéens, pharisiens, esséniens. Évidemment, quand on emploie ce terme secte, c'est pas du tout dans un sens péjoratif. Alors, c'est vrai que le terme est resté aujourd'hui dans la langue française avec cette idée, une secte, attention, c'est dangereux, voilà, les gens ont des idées un peu bizarres, marginales, etc. Alors, du coup, le terme est resté, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup appliqué aux Esséniens, y compris à ceux qui habitaient à Qumran, en disant, mais finalement, c'est un groupe un petit peu marginal au sein du judaïsme, leurs écrits sont un petit peu bizarres, ils sont un petit peu illuminés, ils sont très portés sur les anges, les démons, la fin des temps, ils ont des visions apocalyptiques, sont beaucoup portés sur la prophétie, peut-être l'extase, enfin, vous voyez, c'est un petit peu, voilà. Et donc, du coup, on dit, c'est pas des gens très très sérieux, et d'une certaine manière, ça permettait d'expliquer le fait que dans leurs manuscrits, les manuscrits qui ont été découverts là-bas, y compris les manuscrits bibliques, il y avait des différences assez importantes avec le texte biblique que nous connaissions à l'époque. Et donc la question, c'était de dire, mais finalement, si ces manuscrits sont différents, si le texte biblique que eux lisaient est différent de celui que nous avons reçu aujourd'hui, qui nous a été transmis, est-ce que c'est notre texte qui est fautif ou est-ce que c'est le leur? Et bien sûr, la réponse de ceux que ça dérange, c'était de dire, ah non, 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 c'était eux, c'était une secte, c'était des hérétiques, ils avaient un texte biblique qui était lui-même hérétique, donc c'est pas la peine de s'y intéresser.
Mais donc du coup, ça veut dire que ces récentes découvertes ADN, elles pourraient désolidariser l'histoire de ces manuscrits à celle des Esséniens, ce que quelque part, ça pourrait pas asseoir leur légitimité dans l'histoire biblique de ces manuscrits.
Ben oui. Oui, bien sûr, exactement. C'est-à-dire que si on désenclave ces manuscrits en disant, mais attendez, ne croyez pas que ces manuscrits ont été copiés par des Esséniens, une sorte de secte hérétique recluse dans le désert, mais en fait ces manuscrits sont une grande bibliothèque du judaïsme de l'époque et ils correspondent à différentes mouvances au sein du judaïsme. Ça veut dire que le texte biblique qu'ils nous présentent, eh ben, faut le prendre au sérieux.
Une dernière question avant le journal, Mickaël, par rapport à cette découverte et ces tests ADN, est-ce qu'on peut du coup imaginer que cette étude elle puisse permettre l'identification future d'autres fragments, que c'est que le début d'une grande aventure?
Ben oui, tout à fait, parce que cette étude ADN, elle a permis aussi de tester, par exemple, je vous parlais de ces fameux puzzles qu'on essaie de reconstituer, si vous avez deux fragments et que vous vous demandez s'ils appartiennent au même puzzle, c'est-à-dire au même manuscrit, plus précisément au même folio, à la même feuille, eh ben, faut que ça vienne du même animal. Si vous faites le test ADN, vous pouvez confirmer si ces deux manuscrits, si ces deux fragments appartiennent bien au même manuscrit.
Le grand invité, Bénédicte Bossard.
Nous retrouvons notre invité de ce soir, Michaël Langlois, pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes historien et bibliste, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, spécialiste des manuscrits de la Mer Morte. Et avec vous ce soir, on revient sur les dernières découvertes scientifiques qui révèlent que ces manuscrits auraient peut-être été déplacés et ne seraient donc pas originaires de Qumran. C'est une thèse que vous-même vous soutenez. Vous avez étudié la langue et la graphologie de certains de ces manuscrits. Qu'est-ce que vous avez découvert plus exactement ?
Oui, alors j'ai fait ma thèse sur un des manuscrits de la Mer Morte, un manuscrit du livre d'Enoch. C'est un livre apocryphe. Il n'est pas dans nos Bibles, mais il fait partie de la Bible de l'Église d'Éthiopie. Et donc, j'ai fait ma thèse dessus, et en étudiant à la fois l'écriture et l'orthographe, je me suis rendu compte que, en fait, ce manuscrit correspondait davantage à la région au nord, c'est-à-dire la Galilée et même le sud du Liban, que la région de la Judée à laquelle appartient Qumran. Et donc, dans un des chapitres de ma thèse, je dis, mais en fait, ce manuscrit a probablement été copié ailleurs et a été amené à Qumran. Alors, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul à le dire, mais en tout cas, ça fait très très longtemps que le débat est là et qu'on essaie d'accumuler, disons, les éléments qui permettent de désenclaver un peu ces manuscrits. J'ai également participé à une étude d'analyse chimique qui étudie la préparation des parchemins, et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait trois techniques différentes, au moins, en tout cas dans l'échantillon qui a été étudié, ce qui suggère là encore qu'une partie de ces manuscrits a été apportée d'ailleurs. Pas tous, hein, il y en a qui ont peut-être pu être copiés sur place, mais je pense qu'une bonne partie de ces manuscrits, en fait, viennent d'ailleurs.
On ne peut pas imaginer, vu que vous parlez des manuscrits aussi, que ces manuscrits, au lieu d'être déplacés, auraient pu être achetés sur place, même s'ils ont des provenances différentes. Ça ne peut pas être une autre solution, une autre hypothèse ?
Alors oui, bien sûr, la question de l'achat, de l'acquisition de manuscrits, elle se pose, en tout cas la question de l'achat des peaux. Le fait, par exemple, l'étude ADN, elle dit, bon, les peaux animales, elles viennent d'ailleurs, puisque c'est des moutons, les moutons, ils sont pas de la région. Alors évidemment, on peut toujours imaginer que les gens aient acheté les peaux animales et les aient amenées sur place, et que ce soit sur place qu'elles aient été, ces peaux aient été traitées pour devenir du parchemin, ou même qu'on ait acheté des rouleaux de parchemin vierge ailleurs, il y avait un commerce. Dans l'Antiquité, on le sait, hein, c'est suffisamment bien documenté, on sait qu'on fait le commerce de peaux animales et qu'on fait le commerce de rouleaux, en tout cas de feuilles de papyrus et de parchemin. Donc effectivement, une autre hypothèse, c'est d'imaginer que ces pièces aient été apportées sur place pour être ensuite copiées.
Vous nous parlez de peaux de moutons et de chèvres, vous en avez également parlé un petit peu avant le journal. Vous dites que les moutons ne sont pas de la région. Comment on sait ça ? Est-ce que c'est lié à la topographie, au paysage ? Comment ça s'explique ?
Oui, bah c'est l'alimentation surtout, hein. C'est-à-dire que en fait les chèvres, si vous allez sur place, vous verrez, c'est un climat très désertique, rocailleux, et donc les chèvres, elles sont habituées à aller chercher sous les petits cailloux et se nourrir des petites herbes qui restent, alors que les moutons broutent dans des pâturages. Et donc en fait les troupeaux de moutons, vous allez les trouver davantage dans les régions plus montagneuses, donc du côté de Jérusalem, en fait toute la chaîne de montagnes du nord au sud, vous avez au sud vous avez Hébron, au nord vous avez Naplouse. Donc toute cette chaîne de montagnes, on est en altitude, on est à 800 mètres d'altitude, il y a des pâturages beaucoup plus verdoyants que lorsqu'on est au bord de la mer Morte, où on est à moins 400 mètres d'altitude. Oui, c'est une altitude négative, c'est un peu rare sur la planète, mais ça existe, c'est même le point le plus bas de la planète, où là c'est vraiment très très désertique.
Si ces manuscrits ont été effectivement déplacés, est-ce que l'on a une idée plus précise de leur provenance d'origine ?
Alors non, malheureusement, si c'est du mouton, je disais tout à l'heure, ça pointe vers des régions un peu plus montagneuses, on pense bien sûr à Jérusalem. En fait, Qumran, c'est pas très loin de Jérusalem. Vous partez de Jérusalem, vous allez vers l'est, en direction de la frontière, en direction d'Aman en Jordanie, vous arrivez au nord de la mer Morte, du côté de Jéricho, Qumran est jusque là, est juste là. Et donc du coup, on est à une trentaine de kilomètres, c'est vraiment pas très très loin, en voiture c'est une demi-heure. Donc, si on réfléchit à un centre de production de manuscrits qui puisse être pas très loin de Qumran et qui soit en montagne, bah bien sûr, Jérusalem, c'est la ville à laquelle on pense. Donc, une des hypothèses sur la provenance de ces manuscrits, l'article qui vient de paraître n'en parle pas, mais moi, ça fait, j'en ai déjà eu l'occasion d'avancer cette hypothèse, et je suis pas le seul, c'est de dire qu'en fait, ces manuscrits pourraient provenir de la ville de Jérusalem elle-même.
Et par rapport aux raisons de leur dissimulation dans les grottes de Qumran, du coup, si c'est lié à Jérusalem, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ?
Alors, du coup, il y a plusieurs scénarios. D'abord, dissimulation, tous les manuscrits n'ont pas forcément été cachés, parce qu'à Qumran, il y a des grottes artificielle en sous-sol. C'est un peu comme une cave, si vous voulez, avec des archives. Vous savez, dans les bibliothèques, souvent en sous-sol, vous avez ce qu'on appelle les compactus. C'est là qu'on met un peu les réserves avec la grosse masse des livres. Donc ça, à mon avis, ces grottes-là, c'est des grottes artificielles qui ont servi à ça exprès. Alors que à côté, effectivement, il y a d'autres grottes qui sont des grottes naturelles. C'est des anfractuosités dans la roche, dans la falaise. Et là, on a mis des manuscrits un peu cachés. On les a même mis dans des jarres. On les a enroulés dans du tissu, mis dans des jarres qui ont été scellés. Manifestement, ces manuscrits ont été cachés. Alors, pourquoi les avoir cachés là? S'ils viennent de Jérusalem, à mon avis, l'explication est toute simple. En l'an 70 de notre ère, les Romains sont à Jérusalem, ils ont assiégé la ville, ils la mettent à feu et à sang, et ils vont détruire le temple de Jérusalem. Les prêtres s'enfuient, ils sauvent ce qu'ils peuvent, et je pense que parmi les choses les plus précieuses, on pense bien sûr aux manuscrits. Donc, c'est tout à fait possible que des prêtres du temple de Jérusalem ou d'autres familles sacerdotales, disons, des bonnes familles de Jérusalem, partent en direction de la mer Morte, avec sous le bras des manuscrits, arrivent dans ces falaises, dans ces grottes, dans ces régions avec ces falaises, et qui se disent, tiens, on va planquer les manuscrits là, on viendra les récupérer quand l'affaire se sera un peu tassée, et puis finalement, ils n'ont jamais pu les récupérer.
Michael Langlois, vous dirigez un ensemble de publications aux éditions du CERF, c'est la collection Bibliothèque de Qumran. Vous nous en avez déjà un petit peu parlé, est-ce qu'on peut imaginer que cet ensemble de manuscrits formait justement un genre de bibliothèque, un ensemble de textes qui auraient été délibérément rassemblés?
Mais oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que cette collection s'appelle la Bibliothèque de Qumran. C'est parce qu'en fait, on estime qu'il s'agit véritablement d'une bibliothèque et qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on a là une sélection d'œuvres qui soient toutes d'origine essénienne, même si... bien sûr, un certain nombre de ces rouleaux sont des rouleaux esséniens, très probablement, et notamment les premiers qui ont été découverts, etc. Enfin, il y en a qui sont très très célèbres, et effectivement, ils appartiennent vraisemblablement à la littérature essénienne, mais en fait, on trouve aussi tout un tas d'autres manuscrits avec des théologies ou des idéologies assez contradictoires, et qui viennent certainement d'autres milieux, des milieux sadducéens, par exemple, et donc que là-bas, sur place, on avait une sorte de grande bibliothèque de tout le patrimoine littéraire du judaïsme de l'époque. C'est ce qui explique aussi le fait, par exemple, qu'on ait déjà des traductions anciennes de la Bible, c'est-à-dire des manuscrits qui ont été écrits en hébreu, des livres du Pentateuque, de la Torah, qui ont été écrits en hébreu. On a des traductions grecques, on a des traductions araméennes. Les gens sur place, ils n'avaient pas besoin de ces traductions, ils savaient parfaitement lire l'hébreu. Donc, s'ils avaient ces traductions, c'est probablement un peu comme dans une bibliothèque, on aime bien avoir sous la main ce qui existe.
Michael Langlois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce soir, vous avez choisi de nous faire découvrir un titre de Grégory Turpin. Je vais vous laisser présenter ce titre.
Oui, alors c'est une chanson qui est sur le dernier album de Grégory Turpin qui est sorti cette année. Et en fait, c'est une chanson que j'ai eu le plaisir d'écrire, qui s'appelle « Comme un enfant aimé ». Alors quand on m'a demandé de proposer un titre, je me suis dit « tiens, pourquoi pas celui-là, ça pourra peut-être intéresser vos auditeurs ».
Merci beaucoup.
Comme un enfant tant aimé avant sa naissance, par celle qui en son sein porte la vie. Ton amour est prélude à la création. Avant mon premier souffle, tu m'as donné ton amour, ton amour.
Comme un enfant bien aimé, toujours pardonné par son père, impatient de son retour, ta grâce est accordée invariablement. Quand je reviens à toi, tu m'accueilles dans ton amour, ton amour, ton amour est insondable, inouï, ton amour. Éternel, infini.
comme un enfant bien qu'aimé, livré à la mort, arraché à son père, le cœur brisé.
Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu t'es sacrifié pour que je sois sauvé. Tu t'es donné par
c'était Grégory Turpin et le titre « Comme un enfant aimé », titre choisi par notre invité de ce soir, l'historien et bibliste Michael Langlois. Il y a quelques instants, on revenait avec lui sur les découvertes ADN réalisées sur des fragments des manuscrits de la Mer Morte. C'est bien sûr à Qumran, rencontre que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet rcf.fr.